pour une nouvelle émission de Jeunes Radioactifs. Pour rappel, Jeunes Radioactifs est une émission par et pour les jeunes. C'est-à-dire qu'elle permet à ceux ou celles qui le souhaitent de mener l'émission sur des sujets socioculturels qui concernent la jeunesse. Si tu veux nous rejoindre, contacte-nous au 02 421 71 30. Au passage, je fais un petit coucou à Lionel qui a l'habitude d'animer cette émission et je lui souhaite une bonne guérison. Donc aujourd'hui, on va parler du chômage et des jeunes. Donc j'ai comme invité Eric Brugman d'Infor Jeunes Laeken.
Bonjour.
Bonjour. Julie Benlacal.
Bonjour.
Et Yannick Piquet.
Bonjour.
Bonjour. Du Conseil de la Jeunesse. Et alors j'ai aussi à la régie José. Timan.
Bonjour.
Et Albi. Qui sont nos stagiaires à Infor Jeunes. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore les organisations présentes, je propose un petit tour de table pour qu'elles puissent expliquer les grandes missions de leur organisation. Donc, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Conseil de la Jeunesse ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est l'organe officiel d'avis et porte-parole des jeunes francophones de Belgique. Son rôle est de faire participer les jeunes de 16 à 30 ans au processus démocratique, notamment donc en récoltant leurs paroles sur une série de thématiques qui touchent directement ou indirectement la jeunesse, pour ensuite donc la relayer auprès du monde politique. Le Conseil de la Jeunesse défend l'intérêt des jeunes et les représente au niveau national et international. Voilà donc l'outil principal du Conseil de la Jeunesse pour se faire entendre, pour faire entendre la voix des jeunes, c'est l'émission d'avis officiel et d'assurer évidemment bien sûr que les propositions soient suivies par la suite. Voilà, on essaie d'exercer un véritable rôle de lobby, de pression au sein des décideurs de notre pays.
Ok, merci beaucoup. Mais on reviendra plus en détail alors sur vos missions. Et Philippe, est-ce que tu peux, Eric, pardon, est-ce que tu peux nous expliquer ce
Oui, tout à fait. Bien que je pense que les auditeurs qui sont habitués de l'émission connaissent Infor Jeunes, puisqu'on vient normalement tous les mois. Enfin, on sait pas toujours les mêmes d'Infor Jeunes qui viennent. Mais donc, je rappelle, pour ceux qui découvriraient l'émission, que Infor Jeunes Laeken est un centre d'information jeunesse, donc en communauté française, et qui opère essentiellement sur la région bruxelloise. Donc, on est un centre généraliste d'information, donc on couvre un petit peu tous les besoins des jeunes, mais principalement tout ce qui a trait aux études, à la formation et aussi à l'insertion professionnelle, puisque il faut le rappeler quand même, c'est il faut compter qu'il y a 2 demandes sur 3 qui nous sont adressées, qui touchent au secteur de la formation, de l'enseignement et de l'insertion au sens large, quoi. Donc 2 sur 3, c'est quand même assez énorme. Donc à côté de notre travail d'accueil, d'information, de traitement de l'information via le web, hein, puisqu'on a un site qui, on va rappeler l'adresse.
Oui, tu peux nous rappeler l'adresse.
Ça, c'est très simple, c'est inforjeune.eu. Donc inforjeune.eu. Et donc à côté de ça, on a aussi, mais bon, je vais pas le détailler, on a aussi toute une série de missions proactives sur le terrain, par rapport à l'école, par rapport aux primo-arrivants notamment, et tout gravite autour effectivement de l'éducation des jeunes via la formation, via l'enseignement et via le support à l'insertion socio-professionnelle. Voilà, je crois que je peux m'en tenir là pour le moment. Voilà.
Ah voilà, donc maintenant on va faire une petite pause musicale et on va écouter Jesse Roy avec sa chanson Génération Chômeur.
Je me souviens que quand j'étais petit garçon, j'étais plein de rêves et de grandes ambitions. Je suffisais de travailler pour réussir et gagner sa vie sans trop souffrir. Quand j'observe la jeunesse africaine de nos jours, isolée, abandonnée à son triste sort, il me vient de larmes chaudes plein dans les yeux. Je ne peux me retenir de pleurer. On dit toujours que nous vivons dans un pays de droit, où tous les citoyens seraient égaux devant la loi. S'agit-il du droit du riche d'être toujours plus riche, ou celui du pauvre d'être toujours plus pauvre? Quel avenir voulons-nous donc pour nos enfants? Cette question fut posée quand j'étais adolescent. Monsieur le capitaine du navire répondait: incivisme, bon l'armée, impunité. Chômeur, Sur le sort qui ne fait que s'empirer. Qu'avons-nous fait pour être si punis? Qu'avons-nous fait pour en pâtir autant? Mes enfants, si je savais, je vous le dirais. Ce pays vous appartient à vivre. Ils ont construit des châteaux
à l'étranger,
des prisons
dans le propre pays.
Ils font former leurs enfants
à l'étranger,
laissant nos écoles
sans équipement.
Avec sa chanson Génération chômeur. Dans cette première partie, on va parler du stage d'insertion professionnelle, du stage d'intégration et des allocations d'insertion professionnelle. Donc, Eric, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le stage d'insertion professionnelle, pour qui il est et combien de temps dure-t-il?
Ok, donc le stage d'insertion professionnelle, bon, c'est, dans le temps on appelait ça le stage d'attente, donc il faut maintenant dire stage d'insertion professionnelle. C'est un stage qu'on entame en fait dès lors que l'on a arrêté ou que l'on a terminé ses études, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'inscrit alors comme demandeur d'emploi. Et que durant 310 jours, c'est-à-dire au total sur une année administrative, on ne va pas toucher des allocations de chômage ou des allocations d'insertion. Donc on n'a pas encore droit aux allocations, mais pendant toute cette période, le jeune est amené à chercher du travail de manière active et s'il veut effectivement, donc pour autant, plutôt qu'il n'ait pas atteint l'âge de 25 ans, durant toute cette période-là, durant la période du stage d'insertion, il pourra maintenir ses allocations familiales. C'est important parce que ça veut dire aussi qu'il sera en ordre de mutuelle. Et donc, le fait de s'inscrire, parce qu'on peut se poser la question de savoir, ouais, mais est-ce que c'est obligatoire, je dirais, ce stage d'insertion quand on a terminé l'école? Dans l'absolu, c'est jamais obligatoire, mais ça vaut quand même beaucoup mieux si on n'a pas encore de travail, évidemment. Bon, si on a trouvé un travail à temps plein, ben c'est sûr, on le prend et on doit alors pas s'inscrire. Mais si on n'a pas de travail et qu'on est en recherche de travail, il faut s'inscrire, donc, comme demandeur d'emploi, et on rentre durant cette phase qu'on appelle le stage d'insertion, pendant laquelle on ne bénéficie pas encore
d'allocation. Et si le jeune ne s'inscrit pas, il y a des risques pour lui ou pas?
C'est-à-dire que, donc, comme je disais là tout de suite, c'est que s'il ne s'y inscrit pas, ça, ça a des conséquences sur ses droits sociaux, c'est-à-dire dans le sens où le jeune de moins de 25 ans qui n'est plus dans une école et qui n'est pas inscrit dans le cadre du stage d'insertion, ben, il n'a plus droit aux allocations familiales, et à partir de ce moment-là, sa mise en ordre au niveau de sa mutuelle ne suit plus non plus.
Ah oui.
Donc c'est important.
Okay. Et pendant ce stage, qu'est-ce que le jeune il doit faire? Il doit rechercher du boulot, reprendre une formation?
Alors, il doit chercher activement du travail. Donc, normalement, la période du stage d'insertion n'est pas prévue pour reprendre des études de plein exercice. Donc, on entend par études de plein exercice des études durant la journée. Mais il y a des exceptions à ça. Que ce soit en fait en plein exercice ou en promotion sociale, c'est possible pour autant que le nombre d'heures de formation ne dépasse pas 20 heures semaine. Ou alors, si c'est une formation qui est considérée comme niveau supérieur et qu'elle est comptabilisée en crédit, comme on dit aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, il ne faut pas qu'elle dépasse 27 crédits.
Et si, admettons, le jeune il veut suivre une formation en langue et que sa formation, c'est 20 heures par semaine,
oui.
Est-ce qu'il peut, ou il peut...
Mais 20 heures, c'est le maximum.
Le 20 heures, c'est le maximum.
Et d'ailleurs, tu verras, si tu regardes à Bruxelles, les offres de formation en langue, par exemple, c'est principalement la promotion sociale qui est un des opérateurs majeurs en offre de cours de langue. C'est généralement maximum 12 heures semaine, et il n'y a qu'une seule école.
Oui, laquelle ?
C'est l'IEPSF à Uccle, qui organise une formation en langue. Donc quand je dis une formation en langue, c'est pour une langue, durant la journée, à raison de 20 heures pour cette langue-là. Donc de toute façon, on atteint le maximum avec cette formation-là.
D'accord. Et alors, pendant ce stage d'insertion, est-ce que Actiris peut proposer quelque chose aux jeunes, par exemple le stage d'intégration? Enfin, est-ce que tu peux un peu nous dire ce que c'est?
Ouais, donc le stage d'intégration, peut-être il faudra revenir après sur les allocations d'insertion.
Oui,
en fait,
d'accord.
Non, mais je pense que tu l'avais prévu aussi, non? Ok. Mais le stage d'intégration, on l'appelle beaucoup plus souvent le stage de transition professionnelle.
D'accord.
Bon, on peut dire les deux. Mais donc, c'est un stage qui peut être proposé par Actiris. Bon, quand on va voir ce que prévoit la législation régionale bruxelloise, ils disent que effectivement il faut au minimum 3 mois, avoir déjà accompli 3 mois de stage d'insertion pour pouvoir éventuellement bénéficier donc d'un stage d'intégration au sein d'une entreprise. C'est un stage qui fait entre 3 et 6 mois, et pour lequel, effectivement, on peut bénéficier à ce moment-là d'une allocation de 200 euros quand on est en stage d'intégration, d'une allocation de 200 euros, d'une indemnité plutôt, de 200 euros qui est délivrée par l'ONEM et qui est complétée par une allocation de plus ou moins 27 euros par jour, donc c'est 200 euros par mois, plus 27 euros par jour, qui, elle, est une allocation de stage, d'intégration, qui est payée par l'employeur à ce moment-là.
Et la garantie jeune, c'est quoi exactement? Est-ce que quelqu'un peut répondre?
Ah ben, la garantie jeune, je vais peut-être laisser la parole à Julie ou à Yannick, parce que c'est plus directement, je crois, dans leur corde.
Mais enfin... Voir s'il y a un lien entre les deux. Enfin, si
la garantie jeune, à la base, c'est une mesure politique européenne qui a été décidée. Donc l'objectif, c'était de, plutôt que d'avoir une vision généraliste du chômage et d'essayer de combattre le chômage sous toutes ses couches, c'est de cibler des zones très précises où le chômage est très élevé, généralement des zones urbaines, et de concentrer les investissements et les réductions de charges sociales sur ces zones généralement très peuplées, où le taux de chômage est assez important. Donc en Belgique, ça a été la province du Hainaut, la province de Liège et la région de Bruxelles-Capitale qui ont été ciblées comme zones prioritaires. Et il y a eu, je ne saurais pas vous dire le chiffre, mais je crois que c'est, je sais que l'Europe c'est à hauteur de 6 milliards d'euros.
C'est 120 millions d'euros.
Voilà, 120 millions d'euros pour la Belgique qui ont été alloués à cette mesure. Et donc l'objectif, il se traduit par, dans les 4 mois après les études, il faut que chaque jeune se voit proposer un emploi, un stage ou une formation.
De qualité, précise.
Donc, Ça c'est vraiment la mesure politique. Je peux.
Et à l'heure actuelle, c'est respecté cette mesure?
Mais c'est assez difficile à chiffrer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau, de nouveau, moi je connais mieux les chiffres pour Bruxelles, c'est qu'un jeune sur deux n'a pas besoin de cette mesure au sortir de ses études. Il arrive à trouver un travail par lui-même, ou il reprend des études, ou il n'est pas encore en cas sur le marché du travail. Et pour le jeune qui reste, le jeune sur deux qui reste, il est censé être bénéficiaire de cette garantie jeunesse. Le problème, c'est qu'elle s'arrête déjà à 25 ans, ce qui veut dire que tout ce qui est études supérieures ou autres ne bénéficie pas de ce chiffre-là. Et les autres se voient effectivement généralement proposer soit un emploi, une formation ou un stage, mais évidemment pas souvent. Ce n'est pas souvent ce qu'ils recherchent. Et quand bien même, c'est souvent beaucoup plus un stage ou une nouvelle formation. La formation, ça peut être quelque chose de très court, c'est pas forcément une formation longue, et c'est tout simplement pas un emploi, parce qu'on n'a pas assez d'emplois pour l'instant à Bruxelles, et on n'a pas assez d'emplois pour proposer à chaque jeune qui sort des études un emploi, sinon ça serait, on ne ferait pas toutes ces mesures.
Et donc, à l'issue de tout ça, est-ce que le jeune, il peut directement obtenir ses allocations d'insertion, ou bien il y a encore des conditions?
Donc, si on revient au stage d'insertion, ce dont on parlait au départ, donc l'allocation d'insertion peut être demandée à l'issue d'un stage d'insertion, pour autant que on ait terminé des études qui ouvrent le droit. Donc là, je ne vais pas détailler toute la liste des études qui ouvrent le droit, mais notamment si on a terminé une sixième générale ou alors une troisième de type technique ou professionnel. Il y a d'autres cas aussi. Mais donc, il faut être dans ces catégories-là. Qu'on a donc terminé le stage d'insertion professionnelle, ça je viens de le dire, et qu'on a moins de 25 ans au moment où on effectue la demande. Ok.
Alors. Et si au moment où on effectue la demande, on a 24 ans, et à la fin de notre stage, là on a les 25 ans, est-ce qu'on peut quand même bénéficier des allocations ou pas?
Non. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ta demande, tu dois avoir terminé ton stage d'insertion. Donc
d'accord,
la période
oui,
de 310
sûr.
Jours.
D'accord.
Mais il faut que, pour pouvoir être bénéficiaire, il faut à l'issue de ton stage d'insertion, tu aies moins de 25 ans et que tu aies eu ces fameuses évaluations qui sont effectuées
positive,
par l'ONEM, qui ont été jugée positive. Bon, il y a toujours des recours, mais bon, on va pas détailler. Si jamais, malheureusement, ça n'est pas le cas, à ce moment-là, c'est vrai que la demande pour qui ouvre le droit peut être postposée éventuellement de 6 mois, quoi. Donc, voilà en gros, quoi.
Et alors, est-ce que tu pourrais un peu dire les chiffres des jeunes au chômage à Bruxelles et aussi ceux de la pauvreté?
Ouais, c'est-à-dire que avec les chiffres, il faut démystifier aussi les chiffres, parce que il faut les mettre en perspective et puis il faut rester critique par rapport aux chiffres. C'est vrai que tout récemment, de la part d'Actiris, on a eu des communiqués disant que le chômage des jeunes à Bruxelles avait diminué. Donc en octobre 2014, il y a un an, on était à 21% quelque chose, et maintenant on était passé à 18%.
Mais c'est pas dû aux exclusions?
Ben oui, c'est ça. Oui. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être critique aussi, c'est parce que forcément, le fait que le chômage a diminué ne veut pas dire que ce nombre de jeunes chômeurs en moins ont pour autant trouvé du travail. Parce que il y a eu effectivement toute une série, un nombre gigantesque d'exclusions aussi du chômage, et donc ça veut dire que parmi ces exclus, la plupart ont dû se réorienter vers l'aide sociale du CPAS ou vers le revenu d'insertion sociale du CPAS. Donc là, il faut vraiment être prudent par rapport à ça dès qu'on annonce qu'il y a une diminution du chômage. Maintenant, par rapport à la pauvreté, il faut savoir aussi que cette année-ci, l'annuaire de la pauvreté avait mis en évidence des chiffres aussi, et il disait que 4 jeunes sur 10 à Bruxelles étaient en dessous du seuil de pauvreté. Bon, mais là, justement, je dis, il faut mettre en perspective, il faut être critique. À Bruxelles, ça veut dire quoi? Il faut encore voir dans quelle zone aussi. Il faut voir aussi, il faut savoir qu'entre le nord de Bruxelles et le sud de Bruxelles, il y a une très grande différence. Et notamment dans le nord, il y a toute la zone qu'on appelle le croissant pauvre, donc qui va grosso modo de Saint-Gilles, Anderlecht, enfin toute cette zone qui longe finalement le canal et qui remonte jusqu'à Saint-Parlac et puis jusqu'à Skarbek, où là le chômage et la pauvreté sévissent d'une manière très très forte. Donc il faut toujours affiner quoi. Hein. Il faut toujours être critique par rapport à des chiffres qui sont donnés comme ça d'une manière très globale et très générale. Et il y avait ça. Et d'autre part, il faut savoir aussi que à Bruxelles, parmi donc les personnes, alors pas seulement les jeunes, mais les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, il y a 60% de la population issue de l'immigration. Issue de l'immigration, ici, ça veut dire des personnes d'origine immigrée qui sont là déjà depuis un certain temps, mais ça veut dire aussi tous les primo arrivants et les nouveaux migrants. Donc ça représente quand même beaucoup.
Beaucoup, oui. Ouais. Julie, est-ce que tu as quelque chose à
rajouter? Oui, je voulais juste rajouter, donc, comme on a parlé de la garantie jeunesse, que justement, cette offre devait consister à un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation continue, et elle devait être adaptée aux besoins et à la situation de chacun. Et quand on regarde un petit peu depuis janvier 2015, avec la limitation dans le temps de l'octroi des allocations d'insertion, les plus de 25 ans privés et aussi d'allocations d'insertion depuis le 1er janvier, les exclusions du chômage des jeunes n'ayant pas eu leur CESS avant leurs 21 ans, enfin ce détricotage massif justement des garanties autrefois octroyées à la jeunesse précarisent et précariseront encore les situations vécues par les jeunes. C'est à l'antithèse de l'esprit justement de la garantie jeunesse dont on vient de parler, qui justement parlait de s'adapter aux besoins et à la situation de chacun. Voilà, on est loin de ce qu'on espère, et pour le Conseil et la Commission emploi du Conseil, ben on est un peu dubitatif, en tout cas de l'allure que ça prend actuellement.
D'accord, mais on reviendra plus tard dans l'émission par rapport aux propositions que vous pouvez faire. Donc là maintenant, donc après toutes ces informations, on va s'écouter Bernard Lavilliers avec sa chanson Les Mains d'Or. C'est une chanson qui a été écrite en hommage à son père qui a été licencié après 30 ans de service.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal. Qui va dérivant, voudrait travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge peignée sur l'espoir. On dirait le soir. Des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés les marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier, voudraient travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je veux plus exister là, je veux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui devient fou.
je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Les mains d'or. Dans cette troisième partie, Julie du Conseil de la Jeunesse va nous expliquer la place donnée aux jeunes dans leur organisation. Donc Julie, tu peux nous dire, enfin les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Et alors qui peut venir aussi?
Alors ben, qu'est-ce qu'ils font? Donc le Conseil de la Jeunesse travaille simultanément sur différentes thématiques, l'emploi, l'enseignement, la culture, l'environnement, les médias, la santé, etc. Tout ce qui peut les toucher de près ou de loin. Chaque projet est coordonné par les membres de l'Assemblée Générale et un permanent, et vise donc du Conseil de la Jeunesse qui travaille au sein du Conseil, et vise donc à faire participer les jeunes sur plusieurs sujets spécifiques qui les touchent. Donc la fin des projets généralement aboutit sur un avis thématique du Conseil de la Jeunesse qui est remis aux politiques concernées.
Et alors
qui peut venir? Je vais vous dire, tous les jeunes, puisque c'est pour et par les jeunes, le Conseil de la Jeunesse. Donc en effet, il y a une assemblée générale.
Et il y a une séance d'information en fait pour que le jeune puisse venir et dire moi je veux.
Bon, alors on a un site internet, on essaie d'être présent dans les médias, comme aujourd'hui à la radio, on essaie de faire un maximum de publicité. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on se rend compte que le Conseil de la Jeunesse, alors que pourtant on est censé représenter les jeunes, n'est pas parfois tellement connu des jeunes qu'on représente. Maintenant, on essaie de les rencontrer, on fait des enquêtes en ligne. Donc c'est justement là que le jeune peut participer. Mais rien que déjà en votant, puisqu'il faut savoir que notre assemblée générale est constituée d'une partie de jeunes qui sont élus par d'autres jeunes. Donc déjà tous les jeunes entre 16 et 30 ans peuvent voter pour un jeune qui se présente à l'assemblée générale. Mais il peut donc aussi, comme je l'ai dit, participer aux différentes consultations en ligne, puisque c'est un peu la base de notre travail finalement. Le conseil, on organise plusieurs commissions qui sont prévues dans notre décret également, puisque nous émanons d'un décret, nous consultons généralement très souvent les jeunes en ligne sur différentes thématiques qui sont rapportées en commission et où nous pouvons justement, sur base des constats de ces enquêtes, réagir et avoir un avis plus étoffé. Il y a également donc tous les événements que le CJ organise, rien que au niveau de l'emploi, nous avons organisé plusieurs manifestations, plusieurs conférences où les jeunes ont été invités. Donc il y a tous ces projets thématiques. Et également, on a aussi le journal, le GEF, que le conseil rédige.
Et quoi, ce journal, on peut le trouver alors, le télécharge en ligne?
Oui, il est disponible sur notre site. Il est distribué gratuitement. On les dépose dans plusieurs grands pôles où les jeunes se retrouvent également. Et on invite aussi les jeunes à écrire dans ce journal. Ils ne sont pas juste lecteurs, ils peuvent aussi participer. Ils peuvent aussi nous appeler pour nous interpeller sur différentes thématiques. C'est vraiment pour et par les jeunes. Et c'est important de pouvoir s'ouvrir en dehors de notre assemblée générale, avoir également des membres qui adhèrent au Conseil. Conseil n'existe pas sans partenariat. Je pense que nous sommes un lobby, certes, mais un lobby bien plus fort lorsque nous avons plus de jeunes et surtout des partenaires extérieurs, tels que InfoJeune Laken qui est présent ici.
Est-ce que tu peux juste rappeler alors le site internet, comme ça?
Donc c'est www.conseildelajeunesse.be.
Voilà,
tout
super.
Simplement.
Et alors donc pour la suite, et le CAP, qu'est-ce que c'est?
Alors le CAP, là on est les mains dedans. Donc pendant notre mandat, la commission emploi, qui s'est créée, s'est penchée sur cette fameuse garantie jeunesse qui au départ nous faisait tous un peu peur. On ne savait pas trop ce que c'était. Personne ne comprenait vraiment, parce que c'est assez complexe, ces textes européens. Et donc on s'est dit, regroupons-nous autour du Comité Actif pour l'Emploi des Jeunes. Donc c'est ça le CAP, Comité Actif pour l'Emploi des Jeunes. Et nous avons invité toute une série de partenaires. Les jeunes syndicalistes, InfoJeune Laken était également présent et nous ont bien aidé à mieux comprendre finalement les différentes demandes de la garantie jeunesse. C'était à l'époque où la Belgique n'avait pas encore défendu son plan d'action. Il avait été rejeté quelques fois parce qu'il ne respecte pas notamment la consultation, puisque la garantie jeunesse parle également, la Belgique, avant de rendre son plan d'action, devait consulter les différents acteurs. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est retrouvés. Aujourd'hui, le cap, je pense que c'est quand même une des grandes réussites de cette commission emploi, puisque en dehors même de la garantie jeunesse, nous nous retrouvons pour toute une série de mesures qui est prise, que nous considérons parfois anti-jeunes, ou qui ne vont pas dans le sens justement de l'émancipation, qui est quand même à notre sens le premier motivation d'un professeur de l'école, c'est de s'émanciper, de pouvoir gagner sa vie. Et donc le cap se réunit encore très prochainement. Nous n'avons pas encore fixé de réunion parce que nous devions l'organiser lundi, mais avec les événements nous l'avons annulé.
Et elle est ouverte à tout le monde, cette réunion?
Elle est ouverte à tout le monde, tous les jeunes qui veulent participer, tous les organismes. On a eu le CIEP par exemple, qui s'est un petit peu décalé au niveau de leurs activités, mais était également présent. Donc voilà, toute personne qui...
Et donc pour les dates pour cette prochaine réunion, elles seront disponibles
sur le site. Également sur Facebook et sur Twitter.
D'accord.
Le Conseil de la jeunesse, hein, vous trouverez toutes les informations. Voilà, il y a justement une enquête en ligne actuellement, j'en reparlerai plus tard, mais où c'est important de participer également. Elle se termine vendredi, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et voilà, donc le CAF est directement coordonné par le Conseil de la jeunesse, mais regroupe une série d'organismes, et nous essayons de rédiger ensemble un memorandum collectif afin de porter haut et fort nos revendications au niveau de l'emploi pour les jeunes, par les jeunes, aux différents politiques en la matière.
Et vos endroits d'intervention, c'est où est-ce que vous intervenez exactement?
On intervient dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles, hein, le conseil de la jeunesse. Donc il y a un conseil de la jeunesse néerlandophone qui s'occupe de la Flandre, et en fédération Wallonie-Bruxelles on intervient partout. Évidemment, vu les forces vives dont on dispose, on intervient surtout dans les grandes villes, près des gares, dans les universités, dans les hautes écoles, dans les écoles secondaires aussi. On a fait tout un programme contre le racisme et contre la discrimination qui a été faite dans plusieurs écoles secondaires, notamment une école ici tout près à Saint-Josse.
D'accord.
En fait, ça dépend quel est le sujet, mais on essaye d'intervenir.
Il y a aussi toute la partie internationale, il ne faut pas l'oublier. Donc on a aussi cette chance-là, puisqu'on émane d'un décret, de pouvoir envoyer des jeunes. Et là aussi, j'invite tous les jeunes, parce que ce n'est pas que les membres de l'AG qui peuvent avoir ces fameux mandats internationaux, c'est n'importe quel jeune qui serait intéressé par des sujets justement sur le climat, le développement durable ou d'autres sujets, de pouvoir partir également et se former également. Donc cette année, par exemple, avec le Conseil de la jeunesse, a pu envoyer un représentant à l'ONU, au sein donc de la troisième commission de l'ONU, et voter un texte qui concerne une résolution pour la jeunesse. Ce texte est caractérisé par plusieurs points pour la jeunesse à appliquer au sein des États membres. Et cette année, justement, la Belgique, avec deux délégués, donc justement un en Flandre et un pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont défendu sur le plan de l'emploi l'intégration, donc la notion d'une sécurité sociale pour les jeunes qui n'avaient pas d'emploi. Et cette notion de sécurité sociale a été reprise par plusieurs délégations et est défendue et acceptée par la nouvelle résolution aujourd'hui pour la jeunesse. Donc c'est des petites victoires que nous obtenons également au niveau international.
Ok, merci. Donc là, maintenant, je vais proposer alors qu'on écoute un petit extrait d'une simulation d'entretien d'embauche. Et comme ça, cet extrait mettra en avant les différentes sortes de discrimination qu'il peut y avoir de nos jours. Donc,
C'est très courageux de votre part de postuler chez nous.
Mais nous pensons que vous manquez d'expérience. Surtout vu la position d'où vous partez.
Mais attention, ce n'est pas un reproche, c'est juste pour les soucis de déplacement.
Oui, enfin, même pour venir au travail, c'est pas très pratique. Et nous ne facilitons pas le travail à domicile chez nous.
Je vois ici que vous n'habitez pas la porte à côté, en plus. Et puis, nous sommes en droit de penser que vous êtes très dépendant d'autrui, même pour les tâches les plus basiques.
Et ceci, c'est dû au manque d'expérience et à votre position.
En réalité, monsieur, vous demandez un cadre que nous ne sommes pas capables de vous apporter.
Ouais, c'est vraiment dommage.
Mais revenez dans quelques années. Et si je peux vous donner un petit conseil, passez votre permis de conduire.
Excellente idée.
Ça peut être un fabuleux atout. Vraiment.
Est-ce que tu peux nous faire quelques commentaires par rapport à
déjà vous inviter à aller sur le site du conseil, parce que justement cette petite capsule son vient d'une capsule vidéo, de plusieurs capsules vidéo. Donc c'est justement dans le cadre d'un projet Stop aux discriminations à l'embauche que nous avons fait ça. C'est assez humoristique, vous allez me voir. Et donc il y a quatre spots vidéo sur cette sensibilisation sur notre site. Donc on invite tous les jeunes qui ont envie d'aller le voir. Moi j'ai juste envie de réagir et de dire simplement aux jeunes que c'est interdit. Il y a quand même des critères qu'on appelle critères protégés où on n'est enfin, je veux dire, l'employeur n'est pas censé nous poser, enfin, c'est parfois un petit peu indiscret, mais c'est parfois aussi illégal. Il est normalement interdit de poser des questions autour de la nationalité, du sexe, de la prénom du race, de la couleur de peau, de l'origine nationale ou ethnique, des orientations sexuelles, des convictions religieuses. Enfin, il y a différentes thématiques. Moi, j'invite les jeunes à aller voir notamment sur le site des jeunes LGTB ou les jeunes CSC. Je sais qu'ils ont fait un super travail là-dessus.
Et il serait un peu indélicat, enfin, aux jeunes de refuser de répondre à ce genre de questions.
On s'en rend compte, évidemment. Aussi, hein. On sait bien que maintenant, on est dans un climat où, comme Yannick l'a dit, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Donc le jeune, qu'est-ce qu'il fait? Soit il accepte et voilà, il se dit bah, c'est ça où j'ai peut-être pas l'emploi. Soit il peut aussi dénoncer. Voilà, c'est un peu ou le chacun pour soi.
Et quand on dénonce, c'est de manière anonyme ou pas?
Alors ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. D'accord. J'invite de toute façon, voilà, à aller voir sur les différents sites des jeunesses syndicales qui ont fait vraiment un très gros travail là-dessus. Moi, j'avais retrouvé toute une série justement d'interdictions.
Est-ce que tu as que... Oui, tu peux rajouter quelque chose.
Non, parce qu'on parlait d'énoncer éventuellement des abus, hein, ou des irrégularités. Mmh. Ben, je pense que par rapport à ça, à l'exemple qui a été pris. Par rapport justement, donc on tombe en fait dans une forme de discrimination, hein, d'une attitude discriminatoire. Et là, je pense qu'on peut d'emblée saisir un instrument comme le Centre pour l'égalité des chances. Et donc, ça fonctionne comment? Ben, c'est-à-dire qu'on effectue un signalement, comme on dit, auprès du Centre pour l'égalité des chances, en signalant l'employeur, voilà ce qui s'est passé. Hein. Évidemment, si on peut réunir des preuves et le plus de preuves possible, c'est d'autant mieux. Et donc, le Centre pour l'égalité des chances refera en quelque sorte son enquête et son évaluation. Et à partir de ce moment-là, si c'est suffisamment étayé, eh bien, le Centre pour l'égalité des chances peut déposer plainte aussi. Donc, ça, c'est une piste possible, quoi. Parce que c'est vrai que c'est jamais évident pour un individu seul qui, effectivement, est pris dans un rapport de force qui lui est complètement défavorable, puisque d'emblée, lui, il cherche du boulot, il est face à un employeur, donc forcément, c'est complètement déséquilibré. Puis, il faut effectivement pouvoir amener, il faut pouvoir gérer et administrer la preuve, comme on dit, quoi.
Hein, donc. Pour enregistrer l'entretien d'embauche, éventuellement.
Oui, voilà.
Ça pourrait être le cas, mais je veux dire, un organe comme le Centre pour l'égalité des chances peut alors faire son enquête et reprendre contact avec cet employeur.
Le MRACS également qui.
Oui, le MRACS aussi. Le Centre pour l'égalité des chances, ça touche aux discriminations de façon encore plus large hein, que le racisme. Bon, le racisme en fait partie, évidemment. Mais voilà, quoi. Il y a des pistes.
Vous parlez de discrimination. C'est vrai qu'il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'image des jeunes qui est très importante pour le Conseil. Et justement, même dans le texte, le plan d'action de la garantie jeunesse, même là, on voit des mots quand même assez étranges comme activer le jeune, individualisation. C'est parfois des termes aussi qui sont des jugements de valeur moralisateurs et qui donnent un peu l'image que le jeune finalement désactivé de cette société et c'est aussi assez violent finalement.
Ouais. Yannick, tu veux ajouter quelque chose?
Mais le principe même de la discrimination et pas que de la discrimination à l'embauche, c'est qu'elle est insidieuse. C'est-à-dire que on est dans un état de droit. Enfin, on voit beaucoup de militaires, mais on est quand même encore dans un état de droit jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il faut laisser une certaine liberté à l'employeur de pouvoir choisir son employé sur des critères objectifs en fonction de compétences et autres. Et le critère de l'expérience peut être quelque chose de valable. Je ne remets absolument pas ce critère en compte et je crois qu'il y a effectivement des jobs pour lesquels il faut avoir une certaine expérience avant de les prendre en main. Le problème, c'est que pour toute une série de jobs, on demande une expérience qui n'est pas relevante. On peut pas demander à quelqu'un 10 ans d'expérience pour gérer une équipe de 2 personnes en sachant que dans l'équipe de 2 personnes, ils ont tous moins de 25 ans. Ça n'a aucun sens. Ça, il faut permettre à des jeunes de le faire. Mais le premier problème, hein, c'est vraiment toujours et encore toujours le manque d'emploi. Tant qu'on n'a pas assez d'emplois, on est toujours dans une opposition au secteur des employés, des ouvriers, des travailleurs contre le secteur patronal. Et évidemment, ils ont un large panel de candidats, ce qui veut dire que au même salaire ou avec une petite différence, payer quelqu'un qui a déjà travaillé 15 ans ou quelqu'un qui vient être engagé, on va facilement préférer celui qui a travaillé 15 ans avant. Et c'est une réaction logique, hein. Ce qu'il faut, c'est créer des emplois. Et donc ça, il y a pas mille solutions. Si on crée des emplois et qu'on a besoin de main d'œuvre, il y aura plus de problème de discrimination.
Moi, il y en aura beaucoup moins.
Elle sera moins imprégnante et les gens seront tout à fait intégrés de du fait de cette intégration, ça permettra d'améliorer les liens. Ça, c'est, on peut rentrer dans un cercle vertueux, mais il faut, à mon avis, y mettre une certaine volonté politique et il faut mettre la main au portefeuille. Et ça, il n'y aura pas le choix.
Bon, voilà, je propose encore une petite pause musicale. Donc, on va s'écouter Clément Sévelli avec sa musique Chômeur.
Chômeur, c'est le mot qui me colle à la peau depuis 2 ans. Chômeur, je l'ai pas choisi, on m'a viré comme un brigand. J'ai peur du temps qui passe, de l'avenir et de mes enfants qui me demandent. Mais papa, c'est quoi chômeur? C'est quoi chômeur? C'est quoi? C'est le mal du jour, je me demande après quoi je cours. Chômeur, jamais je n'aurais pensé que ça pouvait me tomber dessus. Pourtant mon boulot je l'aimais bien, je faisais même des heures sup. C'est l'heure des petites annonces, des âmes perdues et moi j'y fonce. Pour ne plus avoir à être un chômeur. C'est quoi chômeur? C'est quoi? C'est le mal du jour, je me demande, après quoi je crois. Chômeur pour tous les autres, ça rime souvent avec lenteur. Chômeur pour moi, ça rime avec putain, j'ai mal au cœur. J'aimerais tant qu'elle m'admire, m'attendre pas, qui rentre le soir et constate que je ne suis qu'un chômeur qui ne croit plus à son retour. J'aime plus ma gueule, c'est le désamour. Dans ma télé, je passe le temps, je tue les heures. Chômeur, je suis qu'un loser, qui a plus d'avenir pour bien des gens. Chômeur, je voudrais qu'on dise à mes enfants que leur père est brillant. Faudrait aller bosser à 1 heure de là pour 3 fois rien. Moi je voudrais faire mon job de cœur. C'est quoi chômeur? C'est quoi? J'ai mal du jour, je me demande après quoi je cours. Chômeur, moi toute ma vie je voulais donner avec courage. Chômeur, vous croyez que 50 ans pour marcher c'est le bonheur? Quand je pense à toutes ces heures données pour vous, à vos pénètres, je comprends que je n'étais qu'un homme pauvre comme tous les autres, un anonyme. Que l'on dégage, quand on le veut, sans un regret, sans un merci, sans un adieu.
On vient d'écouter donc Clément Sévelli avec sa chanson Chômeur. Avant d'entamer cette dernière partie, donc je propose qu'on écoute le témoignage d'une jeune étudiante. On attend.
Bonjour, alors moi je m'appelle Julie, je suis également étudiante en ingénieur de gestion en première master à l'Université de Liège, d'où je viens également. L'année passée, j'ai fait un Erasmus à Budapest pour mon anglais et cette année, je suis actuellement en Erasmus Belgique à Gand pour le néerlandais. Donc, en revenant mon Erasmus l'année passée, étant dispensée de beaucoup de cours, je me suis dit, je vais essayer de trouver un job pendant l'année pour essayer de développer un peu d'expérience. Donc, j'ai été mettre mon CV dans différents magasins, dans toute la région. J'ai été rappelée peut-être une fois en me disant, désolée mademoiselle, nous sommes complets, désolée mademoiselle, vous n'avez pas l'expérience requise ou juste pas de réponse. Donc ensuite, je me suis donc tournée vers les agences d'intérim. Là-bas, de temps en temps, on trouvait un job pour une soirée, pour aller faire un test ou quelque chose, mais jamais vraiment quelque chose, un job à plein temps où je pourrais apprendre quelque chose. Mais finalement, par un énorme coup de chance, j'ai réussi à me trouver un job pour l'été. Et c'est là-bas aussi que j'ai eu vraiment une grande crainte, parce que j'étais entourée de gens qui étaient engagés en CDD, donc qui devaient renouveler leur contrat tous les 3 mois ou 6 mois, et n'étaient donc jamais sûrs de rester là-bas. Et de plus, ces gens avaient des masters, comme moi, en agent de gestion, en sciences politiques, etc. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient toute la journée sur leur ordinateur, à travailler sur Excel, ou d'autres choses comme ça. Donc, ça me fait vraiment peur pour le futur, parce que je me dis, je vais avoir un super diplôme, et ce que je vais faire, c'est un travail pour lequel je ne suis pas qualifiée.
Voilà, donc est-ce que vous pouvez un peu dire quelque chose par rapport à ce témoignage? Quelles sont les perspectives d'emploi pour les jeunes?
Le passage donc des jeunes des études au marché de l'emploi devient de plus en plus compliqué. Les jeunes sont affectés de manière disproportionnée par le chômage et éprouvent des difficultés à trouver un emploi stable. Là elle parle juste donc de stages de vacances. Je pense que ce qui fait peur aussi, c'est de se dire on fait des études en vue quand même d'une carrière. Est-ce qu'on peut encore parler de carrière en 2015, 2016, je ne sais pas. Et finalement, la plupart des boulots qu'ils trouvent en intérim ou là de vacances ne correspondent pas vraiment ou n'avantagent pas vraiment ou n'apportent pas une expérience vraiment probante à leurs études. Et est-ce que ça valorise finalement par la suite leur diplôme? Est-ce qu'au moment de l'entretien, ça les met en valeur en plus de pouvoir défendre une expérience professionnelle? Oui, j'étais chez Carrefour. Oui, j'ai rempli un tableau Excel pendant 2 mois pour gagner que dalle. Je pense en effet que c'est de plus en plus difficile et le témoignage de cette jeune étudiante nous le prouve.
Et alors, je ne sais pas, est-ce que vous pensez...
Je voudrais peut-être juste ajouter, il y a quelque chose de terriblement, je dirais, agaçant dans ce qu'on peut entendre de la part de l'employeur, notamment dans la capsule précédente, et qui est vraiment emblématique, je dirais aussi, de ce qui transparaît dans plein d'entretiens d'embauche, c'est que finalement, on prend toujours le jeune dans une double contrainte par rapport à l'expérience. C'est-à-dire qu'en même temps, on lui reproche quelque part de ne pas avoir assez d'expérience, mais bon sang, pour qu'il acquiert de l'expérience, il faut qu'on lui donne la chance de pouvoir travailler pour acquérir cette expérience, quoi. Et donc là, il y en a un peu marre, quoi, d'entendre tout le temps ce refrain, oui, mais vous n'avez pas d'expérience, quoi. C'est une contradiction déjà dans les termes, quoi. Donc il faut que ça arrête ça aussi, quoi.
Et puis en plus, on se rend compte que de plus en plus de stages effectués en dehors de l'éducation formelle ou même ce genre de boulot-là, comme elle parle, peuvent remplacer des emplois de qualité en CDI d'autres personnes. Enfin,
oui, c'est ça. Voilà. Oui, et le stage de transition professionnelle peut aussi être une menace, non, pour les emplois en contrat à durée déterminée ou indéterminée même.
Avant, je vais vite embrayer sur ce qu'a dit Eric. Oui. Non seulement effectivement le jeune est pris dans un double problème de ne pas avoir d'expérience et de ne pas être engagé, mais les mesures pour engager un jeune pas cher, sans expérience, justement parce qu'il n'en a pas, elles existent. Et là justement, c'est pas uniquement le stage de transition professionnelle qui est une menace pour le CDI, c'est la multiplication de ces multiples contrats. Ça c'est un vrai danger, parce que du coup maintenant on a tellement ciblé que il y a toute une partie de la population qui travaille pour beaucoup moins que ce que travaille normalement un travailleur, que ce soit les intérims, les jobs étudiants, les articles 60, les STI, les stages de transition en entreprise, les stages de transition professionnelle. Tout ça, c'est le même objectif, c'est on va réussir à mettre à l'emploi quelqu'un qu'on n'aura pas mis à l'emploi normalement, parce que pour tout un tas de raisons. Mais l'effet pervers, c'est qu'effectivement, il y a un emploi qui est perdu. Alors quand c'est par exemple une vraie formation, qu'on est dans une petite structure ou une structure de taille correcte, et que le jeune est encadré, qu'il y a un plan de formation, qu'en sortant de là, ils se disent, avant je ne savais pas ce que c'était Microsoft Office, maintenant je maîtrise les 5 Microsoft Office, maintenant je suis capable de parler un peu anglais, je suis capable de traiter des plaintes. Bon, là, j'ai rien à dire. Mais quand vous voyez que les premiers bénéficiaires de cette mesure-là, c'est qui? Non, pas les patrons, je veux dire les Carrefour, les réassortisseurs chez Carrefour. Oui. Donc réassortisseurs chez Carrefour, on peut faire ça 6 mois. Hein. Je vois pas en quoi on va être formé, mis à part être réassortisseur chez Carrefour. Et donc à ce moment-là, effectivement, là quand on voit que ça coûte 800€ tout compris, pour le
200 pour le Carrefour,
200 pour Carrefour et 600 pour l'ONEM, là on comprend à ce moment-là que on aide Carrefour à avoir des réassortisseurs qui, au lieu de lui coûter 3000€ par mois, ce que de lui coûter un emploi plein payé 200. Brut, ça lui coûte 200€. Et donc du coup on remarque que Carrefour n'utilise plus que des stages de transition professionnelle pour faire ça. Moi personnellement, c'est une petite histoire personnelle, j'ai fait de l'inventaire de magasin. Dans l'inventaire de magasin, il y avait 350 employés, il y avait 15 chauffeurs qui étaient des CDD ou des CDI, et tout le reste c'était des étudiants. Mais ça veut dire que effectivement, c'est de l'inventaire, c'est pas très stimulant. On gagne très bien sa vie quand on est un étudiant, mais on paye pas de charges sociales, on paye pas de taxes. L'employeur, quelque part, il ne paye pas des employés qui devraient payer un tarif plein. Et ça, c'est les effets pervers de
800€ par mois, je pense que ça ne permet pas d'émancipation.
Voilà, on va écouter vite le dernier extrait alors, comme ça on continue le débat là-dessus.
Ma quatrième année scolaire. J'ai déjà fait 4 écoles depuis septembre et pour le moment, j'ai plus de boulot. Je me considère pas à proprement parler comme au chômage parce que j'ai déjà bossé depuis la rentrée, je trouve toujours quelque chose au final, mais c'est souvent de l'emploi précaire. Des CDD, des temps partiels, bien alors dans le chez moi. C'est un stress constant, je ne sais jamais combien je gagnerai, où je travaillerai, si je toucherai ou non un complément du chômage. Je commence à sérieusement chercher ailleurs. Dans mon cas, ce ne sont pas les élèves qui me poussent à quitter l'enseignement, c'est l'absence totale de sécurité d'emploi.
Oui, donc qu'est-ce que vous pouvez encore dire par rapport à cet extrait-là ? Vous avez quelque chose à ajouter ?
Oui, je pense que justement ce qui est interpellant ici, c'est que nous avons une personne qui est passionnée par son, c'est les études qu'elle a faites, qui espérait être enseignante. Et de nouveau, on parle d'émancipation, mais là, à partir du moment où vous ne savez pas où vous allez travailler demain, vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme salaire demain, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir. Et c'est exactement ce que exprime cette jeune femme ici, c'est que finalement, elle va devoir certainement peut-être changer d'orientation, ou du moins réadapter ses projets, puisque elle ne trouve pas une sécurité d'emploi, elle le dit. Donc, en effet, c'est interpellant et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Même, est-ce que tous les jeunes qui commencent des études savent s'il y a des débouchés aussi ? Ça, c'est une des questions aussi à se poser. Où on en est à ce niveau-là ? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui font 6 ans d'études pour rien ? Enfin, voilà, on se pose également des questions sur cela.
Ok, merci. Là, on va revenir un peu au Conseil de la jeunesse. J'aimerais bien savoir si vous avez déjà eu une influence au niveau gouvernemental et est-ce que des propositions ont-elles déjà été prises en compte ?
Oui, le Conseil de la jeunesse a obtenu plusieurs victoires politiques pour garantir l'émancipation des jeunes dans notre société. L'abandon des mesures sécuritaires ciblées sur la jeunesse, il y avait les mosquitos à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une espèce de d'onde que seuls les jeunes de moins de, je crois que c'était une vingtaine d'années, entendent après notre oreille interne. Change et donc on les entend plus, mais c'est pour les faire fuir des lieux publics. On a même pensé à un moment donné mettre de la musique classique, vous imaginez un peu le cliché, justement on parlait de discrimination de clichés, on est en plein dedans, pour faire fuir, parce que c'est un peu sadique de mettre un son qui dérange à l'oreille, mais la musique classique c'est tout aussi un peu pervers. Il y a donc autre victoire, donc la limitation des mesures discriminatoires pour les jeunes en matière d'emploi et de chômage, l'introduction, donc, comme on l'a déjà dit, de cours à la vie affective et sexuelle à l'école. Il y a également eu pour notre mandat, les différentes majorités, vous avez certainement dû l'entendre, depuis l'arrivée à notre mandat, on a voulu abaisser la majorité électorale, sexuelle, certainement pour atteindre le pénal, on s'en doute. Maintenant, le Conseil de la jeunesse a essayé de récolter la voix des jeunes là-dessus et a rendu un avis officiel, puisque ça a été demandé par les politiques il y a 2 ans. Voilà. Et donc là-dessus, vous avez bien vu qu'on n'a baissé aucune majorité. Donc, comme je l'ai dit tout seul, nous sommes un lobby parmi tant d'autres, mais nous sommes aussi importants, et c'est important de nous exprimer et de représenter la voix des jeunes. À ce niveau-là.
Et alors, est-ce que prochainement il y aura des nouveaux des événements ? Est-ce que tu peux un peu nous les citer, nous dire où ils auront lieu ?
Déjà, j'invite tous les jeunes à aller sur la page du site www.conseildelajeunesse.be parce qu'il y a donc une enquête. J'avais parlé justement que les jeunes pouvaient participer à ces enquêtes en ligne. Voilà, parce que le 10 décembre à 18h30, nous avons une table ronde qui aura justement pour but de soumettre au ministre compétent le résultat de cette enquête que les jeunes ont répondu sur l'emploi. C'est bien sûr ouvert à tous. C'est à l'ULB. Voilà, je ne sais pas s'il y aura moyen de mettre sur votre site ou voilà, en tout cas sur le site du Conseil vous aurez les informations, parce que donc comme je l'ai dit, l'enquête se termine vendredi et nous allons justement pouvoir la présenter à ce moment-là. Nous avons d'autres choses, il y a également la COP à Paris pour le moment. Nous avons 2 délégués qui sont partis là-bas. Bon, on a une marche pour l'emploi, mais tous les jours ça s'annule avec les événements pour le climat, pour le climat. Et donc là au stand, on ne sait même pas si ça aura lieu également, mais à voir. Et alors il y a aussi le grand projet qu'on a avec la ministre de la Jeunesse, c'est le Forum Jeunesse qui sera lancé en avril de l'année prochaine. Mais voilà, on est déjà en train de le mettre en place. Moi, j'invite de toute façon les jeunes à aller voir sur le site du Conseil ou sur Facebook ou sur Twitter où on met tout ça à jour régulièrement.
Ok, Yannick, tu as encore quelque chose à dire ?
Oui, je voulais dire, on a beaucoup parlé de problèmes liés à l'emploi, liés à la discrimination. On a quand même porté dans notre mémorandum une solution qu'on trouve très simple et radicale, effectivement, face au problème de l'emploi, c'est la réduction collective du temps de travail. C'est une solution que le Conseil de la Jeunesse, de manière pluraliste, c'est-à-dire indépendamment des orientations politiques, du secteur duquel il vient, jeunes syndicalistes, mouvements organisés comme les scouts et autres, on a pris une position pluraliste de dire qu'il fallait une réduction collective du temps de travail avec maintien des emplois et embauche compensatoire, maintien des salaires et embauche compensatoire pour réaliser une création d'emplois directs qui ferait baisser effectivement le chômage. Et là, à ce moment-là, on serait prêt à accorder des tas de faveurs aux employeurs. Voilà, ça c'était une position qui est pour nous une position d'espoir et qu'on a réussi à mettre et à présenter aux politiques, mais bon, là on l'a présenté.
C'est déjà un premier pas.
Voilà. Donc l'émission se termine. Et donc, est-ce que vous pouvez juste rappeler vos sites internet, comme ça tout le monde, voilà. Donc Julie, vas-y.
Pour le Conseil de la Jeunesse, donc c'est www.conseildelajeunesse.be.
Eric, pour InfoJeune.
Ah, donc pour InfoJeune, c'est InfoJeune avec S à la fin. .eu.
Voilà, super. Donc, je tiens à remercier donc Eric.
À vous.
Merci Julie, Yannick. Et pour leur présence et leur participation, je remercie aussi Radio Panique pour leur studio et José, Albi et Piman pour la régie. Voilà, pour clôturer cette émission, je vous propose d'écouter la dernière musique, un remix du chant des partisans démotivés. Bonne réflexion à tous, bye bye.
Ciao.
Frères.